bonsoir à toutes et à tous, les amis, bienvenue dans En Route pour Japan Expo, l'épisode 12 de cette saison 3, après un petit souci technique, excusez-nous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, moi ça va super, j'espère qu'on va passer une très belle émission ensemble. Pour les quelques-uns d'entre vous qui ne connaissent pas encore En Route pour Japan Expo, c'est l'émission où on parle des salons de Japan Expo Orléans, Marseille, Paris. On va faire un récap aujourd'hui de Japan Expo Marseille qui a eu lieu il y a quelques jours de cela. L'émission a lieu deux fois par mois, les lundis à 20h, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche et follow la chaîne pour ne pas louper les prochaines émissions. Et évidemment, on vous fera gagner de très beaux cadeaux ce soir, comme à notre habitude. À ma droite, Thomas et Jean-François, les cofondateurs de Japan Expo. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir. Comment ça, toujours rien? Pourquoi ils disent toujours rien dans le
toujours
chat?
Toujours rien? Toujours rien?
Si, on est là.
Oui, si, on est bien.
On est là. Coucou, vous nous voyez, hein. Dites que vous nous voyez.
F5? 5?
Ah, ah bah si, faut... Eh les gars, faut F5.
Faut refresh. Vous dites, donnez les infos à ceux qui ne sont pas connectés.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Bah ouais.
Bah ça va bien, ouais. En plus, on s'était bien ambiancé là avec Pokémon, hein. Mais
c'est vrai.
C'est les aléas des directs. Petit voilà, souci technique. Bon, il faudra qu'il arrête de manger son sandwich et de boire son coca sur le clavier, mais sinon, ça, ça devrait aller.
Ah, des marques, attention.
Ah, pardon, non, c'était un Pepsi ou un Fanta, je ne sais
voilà,
plus.
Voilà, bravo, très bien.
Japan Expo Marseille a eu lieu la semaine dernière. On va faire un grand récap, évidemment, tout au long de cette émission, mais est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le ton de cette édition, ça s'est bien passé pour vous?
Ah, c'était très spécial.
Humide.
Voilà, alors déjà la humide. Météo. Et puis, bah oui, Toriyama. Donc,
on va en parler aussi. On va
revenir dessus.
Humide des yeux, humide sur la tête, enfin humide partout.
C'est ça. C'était... Ça m'a fait très bizarre parce qu'en fait, une des premières conventions que j'ai fait, moi, en tant qu'organisateur, c'était en 98 et la veille de l'ouverture, c'était Hide, le guitariste de X-Japan, qui était mort. Donc, on a ouvert le truc dans une ambiance morose. Et là, on avait l'impression qu'effectivement, le ciel pleurait toutes les larmes de son corps à la disparition de notre maître.
Ah, bah, il y a eu deux jours de pluie à Marseille et c'était pour la mort d'Akira Toriyama.
C'est ça. On va parler évidemment d'Akira Toriyama lors de cette émission. On ne peut pas faire sans. Dans cette émission, nous recevrons également Ed Le Fou, qui est créateur de contenu sur Internet.
Pas en physique, puisque du coup, il est marseillais pour de vrai.
Ceci expliquerait peut-être pourquoi on vient de cracher.
Peut-être pas, voilà, vous ne le saurez jamais, mais en tout cas, Ed Le Fou sera avec nous en vidéo.
Pour l'instant, il doit être dans le chat.
Exactement, pour l'instant, il est dans le chat, il nous rejoindra d'ici quelques minutes. Messieurs, évidemment, on ne pouvait pas faire une émission en route pour Japan Expo sans parler d'Akira Toriyama qui est décédé le 1er mars dernier. Nous l'avons su du coup le vendredi 8 mars, le jour de l'ouverture de Japan Expo Marseille. Akira Toriyama, évidemment, l'auteur de Dr. Slump, Dragon Ball et de plein d'autres mangas et même jeux vidéo sur lesquels il a bossé. Tout d'abord, messieurs, voilà, vous le vendredi, comment vous avez appris ça, j'imagine, tôt le matin, en vous réveillant ou pas?
Ouais,
c'est à 5h du matin, ma femme qui m'a réveillé en me disant, je viens de lire un truc bizarre. Et en fait, au début, j'ai eu un petit moment où on pensait que c'était un peu un hoax, quoi, enfin, quelque chose. Il a fallu les vérifier, puis quand on a vu le communiqué officiel de Jump, d'un coup, ça a pris une dimension autre. Et voilà, donc au réveil, c'est un bon choc.
Ouais, une des premières choses qu'on s'est dit ce jour-là, c'est « Salut, t'as vu ? Ouais, ok, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir ce qu'on peut faire. » Parce qu'effectivement, une des questions qu'on a eu très souvent du public et beaucoup des journalistes aussi pendant l'exposition, ça a été... qu'est-ce que vous allez faire pour commémorer la disparition du grand maître? On a été un peu pris de court, on a organisé des trucs, genre des rassemblements cosplay, on a fait passer des messages sur scène et autres. Mais c'est vrai que je crois qu'on était un peu assommé quand même de base.
Clairement.
Et puis on l'est toujours aujourd'hui, et puis on va l'être encore longtemps parce qu'on en parlera, mais. Alors qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on fait cet été, comment on peut commémorer son travail et tout ce qu'il a apporté, quoi.
Effectivement, surtout qu'on l'a appris, il était jeune finalement, Akira Toriyama, hein. Il avait 68 ans seulement, il est décédé d'un hématome sous-dural, donc un problème, voilà, de tumeur au cerveau. Il était malade depuis apparemment quelques temps déjà, dans le plus grand des secrets. On apprend aujourd'hui, voilà, son décès une semaine après sa mort, pour laisser un petit peu la famille souffler et prendre le temps de faire leur deuil. Évidemment, Akira Toriyama a eu un impact énormissime sur la pop culture, la culture de façon même globale, j'ai envie de dire maintenant. C'est, je pense, Dragon Ball, hein, pour ne citer que lui, c'est le manga le plus connu au monde, on peut le dire.
Oui, il se frite un petit peu avec One Piece, mais je pense que Dragon Ball reste quand même... plus ancien, ah,
c'est fondateur, quoi. C'est a été une grande étape.
Il n'y a pas One Piece aujourd'hui. Voilà, il n'y avait pas eu Dragon Ball à l'époque.
Il suffit de voir tout ce qui est passé sur les réseaux sociaux, dommage de l'auteur de One Piece, mais aussi
l'auteur Naruto, plein d'auteurs
de Jump. Enfin, c'est l'icône, c'est sans doute l'icône du Jump moderne, quoi, du shonen moderne, où on est passé des icônes des shonen des années 60. Dans les années 80, on a eu enfin, s'il y a des tournois dans les shonen,
on nous a souvent demandé en interview comment vous avez commencé. T'as toujours été la génération de Dragon Ball. J'étais la génération Goldorak, mais voilà. C'est pas pour autant que Dragon Ball n'a pas marqué toute mon adolescence. Et souvent, quand on parle aux journalistes, ils nous demandent. Le manga, qu'est-ce qu'il a de plus de la BD Hero, etc. Et je prends souvent cet exemple du fait que le héros grandisse avec le spectateur, le lecteur, le téléspectateur, pardon. Et Dragon Ball, ça en est l'exemple. Moi, j'ai commencé Dragon Ball les quêtes de base, etc. Et puis, on le voit grandir, on le voit avoir des enfants, etc. Alors, c'est pas à raccord avec ta vie de tous les jours. C'est pas comme dans une comédie romantique ou un truc comme ça. Mais malgré tout, le personnage évoluait en même temps que nous, quoi.
C'est ça.
Et c'est vraiment, c'est une époque. Je veux dire, même aujourd'hui, en revenant de Marseille, on s'est fait un petit coup de blues en regardant le dernier film, parce que moi, je l'aime beaucoup, ce dernier film-là. Je trouve qu'il transpire le Toriyama, justement, avec une ambiance qui n'est pas pure baston, justement. Donc, on attendait avec impatience Sandland.
Ouais,
quand même.
Sandland qui sort ce mercredi sur Disney+. Les 7 premiers épisodes, donc ce sera évidemment foncez-y.
C'est ouf de voir à quel point il a eu de l'actu. Moi, c'est qu'en plus, il nous a accompagnés à la fois parce que Dragon Ball, mais c'est aussi dans les tout premiers mangas qu'on a pu acheter, c'était les petits fascicules. Là,
les fascicules Glena qui sortaient tous les 15 jours en kiosque. Ouais.
Voilà, c'est les premiers. Les premiers bouquins où ils avaient remis dans le sens français, et puis après les premiers bouquins où on était passé en sens japonais.
Surtout qu'à votre époque, quand ça passait au Club Dorothée, je sais qu'à un moment, les diffusions s'étaient arrêtées et que pour connaître la suite, c'était uniquement en manga que vous pouviez le découvrir.
Moi j'allais à Junkudo pour avoir les derniers. Je me souviens d'avoir acheté le tome 42 à Tonkamu. Fortune, mais en fait non, parce que aujourd'hui, en import pour savoir ce qui se passait, etc. C'était énorme. Et puis, ça a été un sujet d'échange avec énormément de gens pendant très, très, très longtemps.
Les excitations, les découvertes des métamorphoses. Tout ce qui était reproduit après dans beaucoup de schémas typiques du shonen, en fait. On a eu parlé dans le passé de ce qu'avait apporté un mec comme Nagai au robot géant et genre d'aventure, Toriyama, il a apporté le shonen qu'on kiffe aujourd'hui et qui représente ce que kiffent à peu près tous les jeunes de la terre entière, quoi. C'est
les jeunes, les moins jeunes.
On est très jeunes dedans.
Évidemment. C'est clair que Monsieur Toriyama aura marqué les esprits. On parle de Dragon Ball depuis tout à l'heure, mais évidemment, Dr. Slump, qui a été un succès phénoménal au Japon, à un point qu'on ne peut même pas imaginer. Très bon manga humoristique. Il a aussi évidemment fait plein de petites histoires comme Sandland, Nekomajin et plein d'autres petites histoires. C'est aussi un grand monsieur du jeu vidéo, mine de rien, Akira Toriyama.
Dragon Quest,
Kara Designer, Chrono Trigger, évidemment. Tobal, numéro 1. Plein de jeux comme ça.
Tobal, waouh.
C'est clair, Blue Dragon aussi en animé, en jeu.
Mais c'est rien que le slime. Maintenant, dès qu'on dit slime, les gens ils pensent tous à la goutte.
C'est ça, et c'est lui.
Et voilà quoi. C'est lui. C'est incroyable. C'est ce génie, l'impact qu'il a sur les gens.
C'est ça. Et évidemment, Dragon Ball qui aura marqué, je pense, des millions et des millions de personnes. Et c'est pour ça que, dès que le décès est annoncé, on a vu des milliers de réactions sur les réseaux sociaux, sur Internet.
Ouais, on a vu circuler là sur les réseaux qu'il y a des gens qui voulaient faire un Genkidama géant, je crois.
C'est ça, c'était à Buenos Aires.
Ouais, mais là, ils veulent en refaire un international le 20. Donc, checkez les réseaux et voyez comment vous pouvez vous organiser. Je pense que nous, on diffusera ça sur les réseaux à nous. Mais il y a plein de choses qui se passent. Donc,
Effectivement. Évidemment, Japan Expo n'existerait pas sans Akira Toriyama directement. Je pense que Dragon Ball, comme vous l'aurez compris, vous qui nous écoutez dans le chat actuellement, ça a marqué vos vies, vos enfances, vos adolescences. Et si vous êtes fan de manga, c'est aussi grâce à Dragon Ball.
Bah oui, parce que, comme disait Thomas, le premier manga que j'ai dû acheter en français en kiosque, c'était Akira, la version couleur. Mais après, le demi tankobon
voilà,
qui publiait tous les 15 jours, c'était un rendez-vous à ne pas manquer. Derrière, notre première invitée comédienne de doublage, c'était Brigitte Lecordier. On l'avait invitée parce que c'est la voix de Son Goku enfant, qu'elle avait bercé notre enfance. Il y a tout un tas d'étapes comme ça où, effectivement, même si c'est parfois compliqué pour nous parce que c'est une licence qui est très contrôlée, donc on peut pas faire ce qu'on veut sur Dragon Ball, il faut toujours mettre d'accord tous les ayants droit, etc. Donc, c'est vrai qu'on a fait des choses avec Glénat autour de Dragon Ball par le passé. Il avait fait des
tout le cheminement de transition de l'animé vers le manga. Alors déjà de comprendre que l'animé c'était japonais, l'animé était adapté d'un manga et tout ça, ça s'est fait notamment au travers, alors pas que, hein, mais notamment au travers de Dragon Ball. Et c'est vrai que ça a impacté. Enfin moi je le dis régulièrement, mais l'animé alors. Okay. Moi, la seule fois où j'ai été bloqué en entendant ou en voyant une star de notre enfance, c'est Brigitte, quand je l'ai eu au téléphone la première fois de ma vie. C'est Jean-François qui m'a donné son numéro pour qu'on l'appelle pour je ne sais plus quoi. Et quand elle a décroché, j'ai entendu Goku. Et voilà, tellement ce personnage et les personnages qu'a créé Toriyama ont eu un impact durable dans notre vie. Ça durera. Et ce qui est génial aussi, c'est que y a des gamins aujourd'hui qui sont passionnés par l'univers de Dragon Ball. Alors c'est un univers étendu par rapport à ce qu'on a connu nous. Mais il y a toujours là quand on jouait voilà, à Dragon Ball.
Oui, mes enfants.
Il y avait son fiston qui jouait avec nous, il connaissait tous les personnages, il n'y avait pas de problème.
Clair que c'est multigénérationnel. Aujourd'hui, Dragon Ball est même multiplateforme. Tu dis les jeux vidéo, évidemment, il y a eu plein de jeux vidéo, parfois même très bons, autour de la série, les animés, les films, les goodies, les figurines, les peluches et compagnie. Voilà, Dragon Ball, c'est finalement toujours d'actualité aujourd'hui. Il y a des nouvelles séries. Dragon Ball Daima qui sort en fin d'année.
Ouais.
Il y a Sandland là, qui arrive aussi d'Akira Toriyama d'ici quelques jours là, sur Disney+, en série d'animation. Il y a le jeu vidéo également. Chez Bandai Namco, voilà, il se passe plein de choses autour de l'œuvre de Toriyama. Son œuvre restera éternelle, ça c'est sûr. Je sais que voilà, dans des années, on parlera encore de Dragon Ball, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé, vous ? Vous étiez voilà, à Marseille pour Japan Expo. Est-ce qu'il y a eu, il s'est passé des choses ? Moi, j'ai ouï dire, j'ai cru voir des choses sur les réseaux sociaux. Il s'est passé des petits trucs sympas quand même.
On a essayé dans l'urgence, dans l'immédiateté, de trouver des petits moments où on pouvait se rassembler entre fans pour commémorer en fait, et puis pour dire voilà, on sait, on est triste et on est triste tous ensemble. Et notamment, il y a eu sur scène, on a pu lancer un grand.
Je crois qu'on a une petite vidéo.
Caméa.
Ouais, si tu peux nous la mettre, s'il te plaît. Ouais, mais là, en full screen, il y a du son, apparemment.
On donne tous notre énergie. Merci, Toriyama Sensei. C'était bon pour toi, vous avez une belle pause, vous avez beaucoup d'échelle, vous êtes magnifique. Deuxième pause, attention, deuxième pause. Je ne suis pas Brigitte Lecordier, mais un Kamehameha s'impose. Est-ce que vous êtes prêts à faire un Kamehameha tous ensemble? Non, il faut plus d'énergie que ça pour Kamehameha. Ça, ça fait que j'ai le rythme, on voit l'énergie. Et enfin, parce que nous sommes tous super, nous sommes tous Saiyan, on va tous se transformer au moins Super Saiyan niveau 1. Et on va tous crier tous ensemble pour faire brûler toute notre énergie. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1.
Voilà, c'était à Japan Expo à Marseille là, le week-end dernier.
Ouais.
Et c'était tout le monde y va. Hein. Ouais, c'est beau hein, de voir autant de fans réunis pour tout ça. Ouais, ça fait bizarre. Ouais, je vous le dis, ça fait bizarre. Moi, je vous le dis de parler de ça aujourd'hui. Toriyama nous a quittés. C'était aussi un petit peu un rêve de voir potentiellement Toriyama un jour à Japan Expo. Je pense que c'est quelque chose qui vous est souvent revenu en tête. Et peut-être même les fans de Japan Expo vous nous ont déjà dit « Ah, quand est-ce que Toriyama vient ?» Aujourd'hui, malheureusement, on sait que ça sera jamais le cas. Mais voilà, son œuvre, lui, survivra. Ça, c'est sûr. Continuons à lire Dragon Ball, à parler Dragon Ball, de Dr. Slump, de tout ce qu'il a pu faire.
Et à célébrer leur création. Ouais.
C'est ça.
Mais à lui, et puis parce que là, on a vu passer plusieurs... effectivement, les créateurs de notre passion...
On était sur un week-end quand même où on préparait avec Ed, qui va nous rejoindre tout à l'heure, une conférence en hommage à Buichi Terasawa qui nous a quittés en septembre. Le vendredi, tu apprends que Toriyama nous a quittés aussi. Et ce matin, en préparant cette émission où on va rendre hommage à Toriyama, on apprend que Inomata Mutsumi est décédé aussi. Donc ça fait beaucoup de combos là.
Voilà. Inomata Mutsumi, pour ceux qui ne savent pas, Mutsumi ne savent pas forcément qui elle est, c'est la character designer des jeux Tales of, ouais, notamment. Et elle était aussi animatrice sur des animés comme City Hunter ou Yurusei Yatsura.
Alors moi je l'ai rencontrée parce qu'elle a travaillé sur un truc qui s'appelle L'Empire des Cinq, qu'on avait sorti en DVD à l'époque. Donc. Ascadis était parmi nous et j'avais interviewé à cette occasion-là et à ce moment-là, elle venait juste de sortir d'une série qui est un carton au Japon mais qu'on n'a pas eu la chance d'avoir en France, c'est Cyber Formula. Pour ceux qui ont la chance de connaître un petit peu, c'est une illustratrice et c'était juste magnifique ce qu'elle faisait. Mmh. Et c'est vrai que là, elle avait beaucoup travaillé sur Tales of et dernièrement, elle était moins appelée par les gens et c'est vrai que ça l'avait pas mal attristée. Mais quel talent, quoi. C'est juste incroyable. Ouais, ouais. Elle avait fait aussi des trucs sur Otsunomiku, des choses comme ça. C'est une grande, grande illustratrice des années 90. À l'époque, elle était même limite plus connue que Sadamoto Yoshiyuki, qui lui a plutôt commencé sa carrière fin des années 90, avec, même s'il a fait Nadia et tout ça. Mais malgré tout, c'était une très, très grande dame. Gentil en plus.
Et ça donne tout un sens à vraiment célébrer les artistes quand ils viennent sur le festival et que on peut les rencontrer, écouter leurs conférences et c'est la preuve que ce sont des moments rares parce que souvent ce sont des gens qui ont des carrières longues qui du coup quand nous on est jeunes, eux ils sont toujours en train de travailler donc forcément ça a l'âge et il faut en profiter.
Un des meilleurs exemples récemment, c'est Leiji Matsumoto, qui nous a quitté aussi, qui était à Japan Expo il n'y a pas si longtemps que ça. On pouvait encore le voir en conférence
en 2019.
C'était comme si c'était hier, et en même temps, il n'est plus là aujourd'hui. Donc, profitons de tous les moments qu'on peut passer avec ces grands messieurs et dames.
Et profitons de leurs œuvres. C'est pas, comme je dis là dans le chat, c'est pas tant qu'on perd nos idoles, et que c'est horrible, c'est terrible, hein, mais... Et il ne faut pas oublier d'en profiter à fond et pas trouver ça normal juste parce qu'il y en a partout. Quoi.
C'est très d'un côté, on a la chance de pouvoir continuer à apprécier ce qu'ils nous ont légué, leurs œuvres. C'est vraiment...
Ils ont laissé des choses incroyables.
On peut les lire, les relire, les re-relire et découvrir toujours des choses. Donc, il faut en profiter. Quoi.
Pour revenir très brièvement sur Toriyama, parce que j'ai oublié quelques petits trucs, c'est vrai que du Toriyama, il y en a eu quand même à Japan Expo. C'est une licence... Enfin, Toriyama, les licences de Toriyama et Dragon Ball, c'est des licences très contrôlées, comme tu as pu le dire.
Akira Toriyama en tant que tel, malheureusement, non.
Malheureusement, ouais, il n'était pas là, mais il y a quand même eu des choses qui se sont passées autour de ses œuvres, notamment en 2001, Brigitte Lecordier, vous l'avez cité, qui était invité et qui a été réinvité plus d'une fois par la suite, c'est clair. En 2010, il y a eu une Kame House que Toei Animation a ramenée à Japan Expo. On a une belle petite photo juste ici. En 2019, il y a eu des animations spéciales Dragon Ball sur le stand des éditions Glénat avec un Shenron géant qui était de toute beauté et des petits jeux, voilà, de petites boules de cristal à aller chercher pour gagner des petits cadeaux. On espère cet été à Japan Expo, on puisse avoir des choses autour de l'œuvre du maître. C'est très compliqué, c'est pas si facile que ça.
Je pense qu'il y a deux paramètres importants, c'est le temps, parce que finalement, c'est pas très long comme temps pour préparer un tel hommage. Et les accords de tous les ayants droit, parce qu'aujourd'hui, Dragon Ball, on a de la société Capsule Corp. Donc, c'est Shueisha, Capsule Corp, Toei qui vont devoir partager tout ça. Nous, on va travailler avec Glénat pour voir ce qu'il peut faire. Mais,
ce qu'on peut garantir, c'est que nous, on a la volonté de faire des commémorations, de faire du in memoriam. On ne fera pas des trucs tristes. Parce que c'est pas notre.
Non, je veux aussi célébrer la beauté de ce qu'il a fait. Voilà. Pleurer sa mort.
Et du coup, avec les bonnes idées et puis avec l'accord des ayants droit, on fera un maximum. Si on peut pas le faire cette année parce que c'est trop court, ça se fera après. Mmh. Faut pas s'inquiéter, quoi. C'est trop important pour nous. À un moment donné, on saura le remercier. Enfin, en tant que Japan Expo.
D'autant plus que c'est les 40 ans de Dragon Ball cette année.
Oui, c'est ouf.
Ça a commencé en fin d'année, comme nous l'avait expliqué Satoko lorsqu'elle était venue. Mais c'est vrai que 40 ans, l'année de son décès,
ça fait mal. C'est clair. Bon, vous l'aurez compris, il y a eu des hommages à travers le monde entier, de nombreux auteurs de manga, de nombreux japonais, éditeurs du milieu, jeux vidéo, tout compris, qu'ils ont fait de nombreux messages. On a vu des rassemblements, notamment en Amérique latine, en Argentine, à Buenos Aires, avec un Genkidama géant qui rassemblait, je crois, 30 000 personnes dans la rue. C'était énormissime, les vidéos sont folles. Invite à les retrouver sur
c'est les vrai, réseaux. C'est l'année du dragon en plus.
C'est l'année du dragon. Effectivement, c'est l'année du dragon. Mais vous l'aurez compris, voilà, Dragon Ball et l'œuvre de Toriyama a marqué nos vies, les vôtres également, j'en suis sûr. Et évidemment, on souhaite à la famille faire leur deuil tranquillement. Donc, une fois, il y a eu des messages aussi, n'allez pas, voilà, bon, pour nous c'est un peu plus compliqué le français, mais même si un jour vous allez au Japon et que vous passez pas loin de chez Toriyama, on ne sonne pas chez lui, on n'embête pas, on n'envoie quoi, rien du tout à la famille. En tout cas, c'était le souhait de sa famille. Et on espère, voilà, qu'ils iront bien.
C'est pas manifester sa passion que d'aller embêter des gens qui sont en train de faire leur deuil, quoi.
C'est ça, parce qu'eux, ils le connaissaient vraiment. Mais c'est ouf quand même qu'une personne qu'on ne connaissait pas
a pu avoir autant d'impact, ouais.
Parce que moi, ça m'a fait quelque chose, franchement. C'est la première fois de ma vie qu'un inconnu, la mort d'un inconnu me touche à ce point. C'est parce que voilà, il a marqué ma vie, effectivement, et la vôtre également. Mais voilà, on va s'arrêter sur Toriyama. On pourrait faire une émission de 8 heures s'il le faut sur ce génie du manga. Et on va pouvoir du coup continuer, si vous voulez bien, messieurs.
Non.
Pour parler de sujet un peu plus sympathique, on va faire un bilan ensemble de Japan Expo Sud. Et pour cela, on sera en compagnie d'Ed Le Fou. C'est l'invité de la semaine. C'est parti, jingle. On est parti pour l'invité de la semaine qui est Ed Le Fou. Et on va parler de Japan Expo Marseille. On va faire un grand bilan de cette édition qui a eu lieu il y a quelques jours de cela. Est-ce que Ed Le Fou nous entend ? Est-ce qu'on le voit ? On le voit.
On le voit. Est-ce qu'il nous entend ?
Alors nous, on n'entend
pas.
Mais
on t'entend pas du coup.
Tu nous entends déjà. C'est déjà la bonne nouvelle. Ah, c'est bon. On t'entend.
Je vous entends parfaitement en tout cas.
C'est parfait. On t'entend nous aussi, Ed. Comment vas-tu ? Bonsoir. Comment vas-tu, Ed ?
Très bien. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent.
On pouvait pas passer 3 jours sous la pluie avec toi sans après faire appel à tes services. Et ton talent sur cette émission pour débriefer Japan Expo, tu en as quand même fait un bon morceau à Marseille. Là.
Écoute, merci, mais juste pour la précision, il n'y a eu que 2 jours de pluie, ça va. C'est pas...
oui, ça il va. Se trouve que c'était le vendredi et le samedi de Japan Expo Sud, quoi. Mais...
Ouais.
Effectivement, c'est des choses qui arrivent. Bah, écoute, Ed, on espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour les quelques-uns qui ne te connaîtraient pas ?
Bien sûr. Moi, c'est Ed Le Fou, je suis youtubeur, je parle sur ma chaîne de manga, je fais aussi des interviews et je partage un petit peu tout simplement la passion et mes quelques petites connaissances. J'ai également la chance, depuis déjà un an et demi, d'être sur Japan Expo Paris et Marseille, où je fais des scènes, où je fais à peu près ce que je fais sur la chaîne, c'est-à-dire des interviews ou des conférences.
Et bien maintenant, tu es aussi à Japan Expo, en route pour Japan Expo. Ça nous fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. On voit que tu as une très belle collection derrière toi. C'est quoi un petit peu tes mangas préférés là ? Est-ce que tu peux nous faire un petit peu saliver ? C'est quoi voilà, ton top 3, top 4, top 5 ?
Oula.
Max ?
Ça, j'ai eu manga. La question, c'était compliqué déjà.
Ah ouais ?
Je vais y aller parce que...
Ouais, on revient, on va faire un café. On...
Allez, on va essayer de faire simple. Évidemment, Dragon Ball, parce que c'est une vraie porte d'entrée sur le manga, même si c'est pas trop original. Gunm, parce que c'est aussi une révélation sur ce que peut être le manga et sur les sujets qu'il peut évoquer plus adultes. Et pour finir, je dirais... laisse-moi réfléchir, je reviens juste après...
Très bien, c'est déjà bien, Ed.
Ah, je crois que c'est bien Berserk en fait. Mais,
voilà, mais c'est parce qu'il a honte du troisième.
Quartier lointain.
Ah ouais, je préfère L'homme qui marche, c'est marrant.
Qui est très bien aussi, mais c'est un manga qui m'a tellement retourné et je trouve que il t'apprend la vie, ce manga. Voilà, Quartier lointain t'apprend la vie et peut vraiment te... Mais tout en étant, tout en ne voulant pas te donner de leçons. C'est vraiment cette notion de... On te montre qu'un manga, ça peut être largement autre chose que des combats ou que de l'aventure. Ça peut être aussi des histoires très profondes et de l'introspection. Voilà.
Comme Jean-François le disait il y a quelques minutes, tu étais présent à Japan Expo Marseille. Tu as fait partie finalement du salon, notamment par des conférences que tu as tenues sur scène. Tu as parlé également, Jean-François, tout à l'heure, de la conférence hommage à Terazawa. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus? Comment ça s'est passé? Ça t'a plu? C'était comment, Ed, sur scène pour parler de ce grand monsieur aussi qu'est Terazawa?
Alors déjà, c'était un moment assez spécial parce que Terazawa représente beaucoup pour moi dans mon parcours de fan de manga. Donc c'était important pour moi d'essayer d'arriver, de faire quelque chose de cohérent, de pas plonger dans le triste, mais au contraire, d'essayer de montrer quel grand monsieur il était, au-delà de Cobra. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon moment. Je suis très content des retours aussi qu'on a pu me faire après la scène, des gens qui étaient dans le public. J'espère que mes invités sur scène aussi, qui étaient des intervenants de choix, dont un est sur le plateau avec toi, ont passé un bon moment. Et je pense qu'on a quand même...
C'est pas ça qui te fera avoir plus de conférences à Japan Paris. Hein.
Oh, ça joue.
Non, mais je pense qu'on a quand même réussi à rendre un bel hommage au monsieur, vraiment.
Effectivement, toi aussi, hein, Jeff, qui était sur scène, qu'est-ce que t'en as un petit peu
Bah, alors, la conférence en elle-même, moi j'ai passé un excellent moment avec Ed et Lout de la bande animée, là. J'ai trouvé que c'était intéressant puisqu'on a pu échanger et compléter nos ressentis. C'était une conférence un peu spéciale pour moi parce que Terazawa, en plus de l'avoir rencontré à maintes reprises, on a la chance avec Thomas dans notre seconde vie d'éditer ses mangas. Donc c'était vraiment un moment particulier, un monsieur qui, pour moi, a apporté vraiment quelque chose parce que quand on en parlait, on disait voilà, dans le Shonen Jump dans les années 80, il y avait beaucoup de Shonen, et Cobra, c'était un truc qui était un peu hors norme, parce que le personnage n'était pas comme les autres, c'était plus adulte, etc. L'animé m'a beaucoup marqué, et si Japan Expo là aujourd'hui, ça y a grandement participé, puisque à travers Cobra, j'ai découvert plein de choses dans l'animation. Et voilà, du coup, c'était très intéressant d'échanger des points de vue, d'expériences différentes aussi, parce que j'étais plus âgé sur le... scène, et c'était bien d'avoir l'avis des plus jeunes, et le public avait l'air intéressé. On a passé un bon moment, c'était trop court, hein, évidemment, c'était trop court, on n'a pas eu le temps de dire tout ce qu'on voulait. Du coup, parfois, pour aller plus vite, j'ai sauté des étapes et je me suis fait taper sur les doigts par l'animateur.
On se demande qui décide de la durée des conférences.
C'est pas moi, malheureusement.
Non, mais l'essentiel, c'est que personne ne soit arrivé en retard.
T'arrives en retard?
Non. Non, non, c'est.
Bah non,
pile
non,
poil à l'heure.
Moi, je suis arrivé pour lancer la conférence.
Voilà, pile poil à l'heure.
Bah non, vous avez commencé à l'heure, moi, quand je suis allé voir, c'était bon.
Hein. Ouais. Non, mais c'était un grand.
À l'heure marseillaise.
Voilà, marseillaise.
Ah, bah c'est bon, alors. Salaud. Le quart d'heure de.
C'est pas gentil. Non, alors, très concrètement, on était dimanche et du coup, il faisait beau et du coup, j'ai voulu prendre le raccourci par les extérieurs et en fait, c'était blindé de gens, donc c'était pas un raccourci du tout. Mais voilà, non, c'était un moment sympa, mais très, très touchant, très émouvant. C'était beaucoup d'émotions de se remémorer tout ça, quoi. Après, comme on le disait, on a le souhait de faire en sorte que ce genre de moments, ce soit plus des moments où on partage le plaisir qu'on a eu avec ces auteurs plutôt que la joie, la tristesse de les avoir perdus, quoi, en fait.
Donc, c'est clair. C'est clair. Donc voilà, la conférence hommage à Terasawa qui a eu lieu le week-end dernier à Japan Expo Marseille. Tu as aussi pu animer un Comme à la maison avec Sifano et Nutita. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu également, Ed?
Bien sûr. Donc c'était deux scènes différentes. La première avec Nutita, la seconde avec Sifano. Un excellent moment. J'ai vraiment appris à les découvrir en dehors de la scène, avant, déjà pendant la préparation, puis ensuite avant et sur scène. C'était vraiment un excellent moment. Je pense qu'on a, encore une fois fait plaisir aux gens. Il y avait vraiment de très très bons retours de la part des gens qui étaient là. Et on a pu aller un petit peu discuter de tout petits créateurs de contenu à énormes créateurs de contenu, mais sur ce sujet-là. Et encore une fois, que ce soit de la part de mes invités ou des gens qui étaient là, je pense qu'on a tous passé un excellentissime moment. Malheureusement.
Et t'as appris des choses un peu croustillantes que tu peux partager là ?
C'est surtout du ressenti sur qu'est-ce que ça fait d'être créateur de contenu à certains moments dans leur carrière. Donc du croustillant, il y en aura peut-être. Peut-être qu'on retrouvera des vidéos justement sur la chaîne. Donc j'ai envie de dire la chaîne YouTube Ed Le Fou pour en savoir plus.
Et évidemment, vous
mais
avez...
c'est instant promo, aïe aïe aïe.
Il est bon.
On profite.
Et évidemment, il y a ton lien, il y a le lien de ta chaîne YouTube sur dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas en épingler, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça juste après le live. Les moments préférés un petit peu de Japan Expo Marseille, de Ed et de vous également, messieurs. Ed, est-ce qu'il y a un moment préféré, voilà, un moment peut-être que t'as, voilà, que t'as préféré parmi d'autres pendant ce salon à Marseille?
Alors, si j'enlève évidemment les moments que j'ai vécus, qui sont évidemment un peu exceptionnels, je vais dire Jean-Marc Anthony Cabella, qui est un monsieur exceptionnel. Je ne suis pas de la génération Pokémon, je n'ai jamais regardé l'animé, je ne collectionne pas les cartes, et ce monsieur, à chaque fois que je le vois sur scène, me fait chanter le générique de Pokémon. Je trouve qu'il a une énergie, une pêche, un mojo, appelez ça comme vous voulez, mais ce monsieur est exceptionnel. Et à chaque fois que je le vois sur scène, c'est un excellentissime moment.
C'est vrai qu'il est très très fort et on a pu le voir juste avant le live avec le concert, avec tous les invités qui étaient sur scène.
On l'avait bien épaulé là quand même, il était très avec clair. Pas mal de gens, mais déjà lui tout seul c'est juste un extraordinaire moment. On avait fait à Orléans en fait une réunion comme ça avec Arnaud Laurent, avec Brigitte Lecordier, avec Tokyo No Joe qui était venu sur scène avec Jean-Marc et du coup là on avait plein de chanteurs et tout, on s'est dit tiens, ça pourrait être une bonne idée. Et au final, quand j'ai vu les répètes le dimanche matin, c'était...
Il fallait pas que la scène soit plus petite.
Ouais, on était content d'avoir une grande scène.
Effectivement. Et vous, messieurs, de votre œil d'organisateur, est-ce que vous avez pu vous échapper pour pouvoir assister à deux, trois petites choses à droite à gauche? Et c'était quoi un petit peu vos meilleurs souvenirs de ce salon?
Ah, il y a des moments un peu différents. Moi, le moment qui m'a fait... Le plus surpris. Je vais commencer par le plus surpris.
Ouais.
Juste avant le World Cosplay Summit, le samedi, il y avait Shaodo, notre ami en anglais là, qu'on voyait rapper, qui est venu en intro faire un concert de rap, mais tombé parce qu'il a vraiment... On parlait de l'énergie de Jean-Marc Anthony, je pense qu'il a trouvé son héritier parce qu'il a vraiment une pêche d'enfer. Il arrive à communiquer comme ça... avec un public français qui n'a pas forcément les mêmes ressentis, les mêmes approches, les mêmes expériences. Et là, je suis en train de m'assurer que la scène ne soit pas envahie de gens qui voudraient venir debout, parce que pendant le cosplay, on a besoin qu'ils restent assis. Et tout se passe bien, donc je décide de partir de devant la scène pour me lever. Et tout d'un coup, j'entends un énorme « waouh » dans le public, parce qu'en fait, il était sauté de scène sur le premier rang de chaise. Il fait un envol comme ça là, et on s'est retourné avec les staffs et qui on était, et qu'est-ce qui s'est passé, et on le voit, il est juste debout sur les chaises au milieu du public en train de chanter Levi Mode, et c'était un truc de dingue. Donc ça c'est le moment surprise pour moi. Thomas, toi?
Dans les moments qui m'ont marqué, Dans les moments contenus, on va dire, c'est un moment, il y avait Starseed sur scène, là, et ils ont chanté une chanson de AKB48. Et c'était assez sympa, parce qu'en fait, la chanson a beaucoup de souvenirs pour moi. Et du coup, de passer par là, parce que je passais littéralement par là, et d'entendre cette chanson qui était, c'était improbable, ça a eu un bon effet choc sur moi. Et de voir notre belle scène, là, avec tous les gens en train de crier devant, c'est satisfaisant. Et le moment un peu plus organisateur, c'est quand il y a, je suis allé voir l'intro d'un des concerts de UNPA, là, et que d'un coup, il y a tous les premiers rangs qui se sont mis hurlés, on fait « Tiens, on a fait un bon choix, là, ça marche bien
». Bah, UNPA et Starseeds, quand ils étaient en dédicace, on le savait, parce qu'on entendait les cris des fans dès qu'elle ou il se montrait. C'était assez impressionnant, ça a été très plaisant. Après, un moment que moi j'ai beaucoup aimé, c'est un moment plus off, puisqu'on a eu la chance de dîner le samedi avec un certain nombre d'artistes, et on a pu mélanger les Français, les Japonais et tout ça, et créer une belle synergie entre eux. Et c'était un plaisir de les voir échanger comme ça, et de lier, enfin de créer des relations entre ces artistes de différents pays. C'est vraiment super plaisant, quoi.
Ouais, et puis de voir qu'ils font tous des efforts pour se comprendre, pour se découvrir et tout, c'est hyper sympa.
Après, si on parle des moments marquants mais nuls, j'en ai aussi un certain nombre parce qu'il pleut. et il y a du Mistral. Et du coup...
on a découvert la pluie qui avance comme ça.
Voilà. Ed, tu as le droit aux chaises qui bougent toutes seules, n'est-ce pas? Mais il y avait tellement de vent que ça ouvrait les portes du bâtiment et que ça faisait rentrer la pluie. Et que par moment, bah, on a eu plein de soucis avec les exposants.
La pluie
n'a
pas pris un seul billet, la pluie. Rien.
Ça qu'elle rentrait à Japan Expo gratuitement à la fille pour le coup. Mais non, c'est clair, c'est ce que j'ai ouï dire, et Ed, tu vas peut-être nous le confirmer. C'est qu'il pleut deux jours dans l'année, c'était les deux jours sur trois de Japan Expo,
malheureusement. Puis même nous, c'est en 14 ans, rien.
Ouais, c'est clair.
Exactement. Mais je me permets juste, puisque si on peut se permettre de donner un petit moment coulisse, tu parlais des moments préférés, j'ai eu la chance de rencontrer aussi Vincent Ropion. Voix française, entre autres, de Nicky Larson, Ryo Saiba. Et tout à l'heure, Thomas, tu parlais des moments qui marquent avec des voix qui te rappellent ton enfance. Quand j'ai ce monsieur-là en face de moi qui est en train de manger une gaufre et qui me voit la regarder, sa gaufre, qui me dit « Mais tu en veux ? Tiens, je t'en donne. » J'ai Nicky Larson qui me donne un bout de sa gaufre. Je ne vais pas te mentir. Pour moi, c'est un moment que j'hallucine encore, mais il restera gravé très, très, très longtemps.
Et la beauté de Japan Expo.
Et il a fait une super vidéo sur l'expo.
Ouais, j'ai vu la vidéo.
Ouais, elle est géniale. Sympa. Donc si sur vous voulez y aller, et un truc de fou, c'est qu'il a tout fait en une seule prise. C'est-à-dire, il est arrivé, il a fait ses lignes, il est reparti. Et...
Voilà, royal. Ouais, c'est disponible sur les réseaux sociaux de Japan Expo.
Ouais.
Je vous invite à aller la voir, elle était très très sympa. Donc effectivement, la météo qui n'était pas malheureusement au rendez-vous.
Bon, ah vraiment
ça
pas.
Ça arrive.
Enfin, pas la bonne en tout cas, c'est pas celle qu'on voulait.
C'est clair que c'est pas forcément la bonne météo, qu'il y a eu des petits soucis à ce niveau-là. Bon, ils ne sont pas de votre sort malheureusement, et c'est comme ça. En termes de chiffres un petit peu, est-ce qu'on peut parler chiffres, messieurs? Combien de visiteurs pour cette édition de Japan Expo Marseille?
Ben, on a une premier chiffre, après c'est à vérifier, mais logiquement, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs,
ça devrait le faire.
On fait une année où on fait un petit peu moins de 41 000, puisqu'on est à 40 866 visiteurs, sachant qu'on est parti sur un vendredi où on avait quasiment fait moins 25% par rapport à l'année dernière.
Ouais, et qu'après, ça s'est rattrapé, heureusement.
Mais on voyait bien l'effet pluie. Hein. Ouais, parce clairement. Que le dimanche, il a fait beau.
Et ça a cartonné. Plus que l'année d'avant. Donc c'est vraiment la pluie qui nous a...
J'espère, dans le chat, pour ceux qui étaient là, qu'on aura plein de retours sur la nouvelle disposition, parce qu'on avait quand même agrandi le festival, que la scène Ichigo, bah, vous l'avez vu dans l'intro sur le concert de Jean-Marc Anthony Cabella avec tout le monde, là, on avait une scène Ichigo qui était assez, assez top. Bah, j'espère que ça a plu, mais que ça a plu.
Non, ça n'a pas plu. Non, stop, c'est plus fini ce mot.
J'espère que ça vous a plu.
Voilà, c'est ça.
C'est clair, il faut bien se rendre compte que la pluie à Marseille, enfin, moi je suis vraiment marseillais, déjà il a plu très fort, et chez nous quand il pleut, on ne sort pas en fait. C'est peut-être pas comme dans un peu plus au nord où la pluie tu fais avec. C'est vraiment, ça a vraiment un gros impact quand il pleut chez nous. Et là, j'ai plusieurs copains qui devaient venir vendredi ou samedi qui m'ont dit, ah bah, il pleut, on n'aime pas.
Oui, on a même reçu des mails de gens qui nous disaient, pouvez-vous rembourser mon billet parce qu'il pleut. Ouais, j'étais triste pour eux, dur, mais non, on ne fait pas ça.
Et puis, il y a vraiment un truc désespérant, hein, parce que rien n'est fait pour la pluie à Marseille. C'est-à-dire que les halls, ils sont étanches, ouais, mais jusqu'à un certain point. Que même dans la rue, quand on voyait les évacuations de flotte, on avait l'impression que c'était la tempête de la fin du monde, tellement il y avait de l'eau qui ruisselait de partout, quoi. Mais c'est juste que c'est un endroit de la France où il fait très beau tout le temps, et du coup, quand il pleut, c'est pas l'habitude.
Oui, bah, j'en avais parlé à Ed, mais ils connaissent pas Japan Expo Marseille, il y a 3 halls. Et en fait, quand on passait du hall 3 au hall 2, il y avait personne parce qu'il pleuvait. Moi, j'y suis passé assez sereinement parce qu'il pleuvait, mais sur la région parisienne, c'est pas une pluie qui va t'empêcher de sortir. Par contre, je voyais les Marseillais qui couraient entre les deux halls. Ils étaient complètement affolés par cette pluie. C'était amusant, du coup, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans les halls. Donc, même s'il y avait moins de monde que l'année dernière, comme ils étaient tous dedans et qu'il y avait personne en extérieur, il y avait beaucoup de monde dedans. Mais par contre, entre les halls, enfin, c'est ce que tu disais, la pluie, pour moi, c'était pas bien méchant. J'aurais pu rester là et faire la circulation s'il fallait. C'était... Hier, il a même plus plu, en fait, sur la région parisienne qu'à Marseille. Mais effectivement, on a vu que le public n'était pas du tout habitué et que comme on a énormément de gens qui habitent Marseille, qui viennent à Japan Expo Sud, ils sont restés chez eux en attendant que la pluie s'arrête, quoi. Donc, ils sont venus que le dimanche.
Il fallait bien que ça arrive un jour, messieurs. Hein, en 14 ans, comme tu le disais, il n'y a quasiment jamais de pluie.
À vivre, c'est pénible, mais on sait bien que c'est un épisode exceptionnel. Et voilà, ça se
reproduira. Par contre, c'est qu'on a vraiment tout fait pour que ça se passe dans les meilleures conditions
possibles. On a déplacé des stands,
on a fermé des portes quand on pouvait. Mais il y a des normes de sécurité qui ne nous permettent pas de mettre des volets partout, parce que sinon, effectivement, ça aurait été plus simple. Mais de sécurité, c'est pas bon. On a dépassé des exposants, enfin, plein de choses, quoi.
Mais ce qui était bien dans tout ça, c'est que tout le monde était de bonne volonté, donc c'était hyper fun sur le moment. Il y a même des invités qui nous ont dit on veut être encore plus en contact avec les visiteurs. On veut donc notre ami ici présent a fait créer instantanément une nouvelle file de soumirer avec table, de quoi rencontrer. Faire les fils.
Oui, Soumire 4 est apparu entre vendredi et samedi. C'était samedi. Samedi, on a rajouté une salle de dédicace.
Apparu sur l'application mobile, sur le site web, en physique.
On peut quand même remercier et applaudir Sifano, Vincent Ropion, qui ont dit j'ai pas assez de dédicaces, je veux voir plus de gens. Et on a pu rajouter cette scène aussi parce que les artistes avaient envie de vous rencontrer.
C'est eux qui ont demandé, vraiment.
Écoutez, c'est une très bonne chose. Concernant le cosplay, il y a eu évidemment de nombreux rassemblements. Hein.
C'est ça, mais surtout, c'était une expérience, puisqu'on a lancé des rassemblements officiels avec des timings annoncés à l'avance. Alors, on va affiner, hein, clairement, c'était pas toujours parfait. Mais comme vous pourrez voir sur l'image qu'on va publier incessamment sous peu, certains des rassemblements étaient tout à fait...
Régis, t'as pas entendu.
Ouais, la régie est en train de discuter, alors du coup...
Il cherche la photo.
Voilà, il pouvait y avoir pas mal de monde. On a eu des petits couacs parce qu'on a eu des décalages entre les moments où on venait prendre les photos et les moments où les cosplayers se rassemblaient, des choses comme ça, parce que c'était une première de le faire aussi officiel. Mais comme vous pouvez voir, il y a certains rassemblements tout à fait sympathiques et c'est assez fun à voir parce que d'avoir tous ces personnages qui se rassemblent en un point, ça fait des beaux souvenirs. Oui, c'était du Genshin, tout à fait.
Exactement, exactement. Succès de l'Amazing Game Experience, évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde présent pour l'occasion. Ça, est-ce que vous avez aussi un petit mot? Vous avez pu, je sais pas si t'as pu faire un petit tour pour cet événement ou pas? Après, il y a les concerts. Je sais que les concerts, il y a moyen qu'ils soient allés aussi un petit peu. Tu me parlais de Monsieur Kabeya.
Tout à fait.
L'Amazing Game Experience.
C'est marrant. Monsieur le Rollis, il n'y a pas été
Non, je suis désolé. Je profitais de Shadow aussi, qui, comme tu le disais tout à l'heure, Shadow, il était sur la scène souvent avant moi. Donc, j'allais un petit peu avant pour profiter, j'avoue.
Tu profites des invités, toi.
Complètement.
Ah bah bravo.
T'as bien raison, t'as bien
Donc
raison.
En fait, quand tu nous as vendu, ouais, moi je suis rôliste et tout, c'était du pipeau, quoi. C'est pipeau mollo, tout ça, hein, son dans un bateau. Ah, bravo.
Est-ce que tu vois des livres de jeux de rôle ici? Non, ah, bah, là, voilà. Là.
Mais bah, du coup, l'Amazing Experience, on l'avait pas mal agrandi, puisque du coup, on travaille avec Parkage sur cette zone-là. Mais en plus, on avait cette année Captain Meeple et il y avait pas mal de jeux Yellow aussi. Mm. Et toute la zone a été quasiment à temps plein remplie, que ce soit les tournois, que ce soit les démonstrations, etc. C'était très sympa. Là, on en voit un tiers seulement. Hein, donc, vous imaginez que c'était quand même assez grand. D'ailleurs, ouais, ça me fait penser
particulièrement
à
blindé.
À une autre anecdote, c'est que dans le fait qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir de la pluie à Marseille, on avait programmé le chauffage comme tous les ans. Sauf que quand il pleut le vendredi, en fait, bah, le chauffage il s'est arrêté à une certaine heure parce que d'habitude, il n'y en a plus besoin. Là, ça caillait, donc il a fallu qu'on relance le chauffage en urgence. Et c'était pas chose facile parce que dans le hall 3 où on avait les jeux là, c'est un truc qui met certain temps à démarrer. Et une fois qu'il a démarré, comme c'est un chauffage au gaz, on a eu quelques surprises puisqu'il y avait en fait des aérations qui venaient éteindre les chauffages au gaz. Et quand il redémarrait, le gaz sortait, mais
une petite boule de feu.
Ça se rallumait pas tout de suite. Donc du coup, il y avait beaucoup de gaz et d'un coup, pouf, la petite étincelle. Et boule de feu au-dessus de certains stands qui ont eu quelques petites frayeurs.
Ouais, moi, ça m'est même remonté, genre, il y a eu des départs de feu. Et après, genre, François me dit, non, c'est pas des départs de feu. C'est impressionnant, mais c'est pas des départs de feu.
Bon, Dieu merci, il n'y a rien eu de...
Non, mais voilà, dans les petits trucs à gérer sur place, c'était amusant. Ouais. Et par contre, une fois qu'on a pu remettre le chauffage, que ce soit les pratiquants en arts martiaux qui avaient un peu froid juste en kimono, ouais, ou les gens qui jouaient sur les tables de l'espace Amazing Game Experience, on a eu que des bons retours. Quoi.
18 concerts face à 13 l'an passé, donc beaucoup plus de concerts sur, mm-hmm, sur scène. On l'a pu le voir dans la petite vidéo aussi, juste en pré-live. Il y a eu voilà, les Star Seeds, tu te racontais aussi l'anecdote un petit peu plus tôt, UNPA,
Astérisme.
Astérisme,
pour ceux qui n'ont pas encore voir Astérisme, il faut découvrir Astérisme.
On publiera ça sur YouTube, il ne faudra pas hésiter à aller
ça,
voir.
C'est la scène Ichigo.
Vide.
Et ça c'est la scène Ichigo
pleine. Craqué. Non, c'est clair que cette scène a eu du succès, hein, de ce que j'ai cru comprendre cette année particulièrement.
Ça rend bien. Et ça, en fait, d'avoir une scène à l'écart, fermée, ça nous permet d'avoir ce genre d'effet avec la fumée, les lumières, d'avoir des beaux rendus d'écran. C'est beau, quoi. C'est
d'avoir clair, une salle ça. De concert.
Exactement.
Claire, toi, Ed, t'as pu un petit peu assister à quelques concerts de ton côté? Et lesquels?
Oui, alors bah, on est passé pour le dernier, le big show, où il y avait tout le monde sur scène. C'était waouh, c'était, et c'est ça qui est génial à Japan Expo, c'est en fait, c'est quand les artistes comme ça font un mix tous ensemble, t'as l'impression, enfin c'est vraiment la fête, c'est vraiment une énergie de folie.
Ah, c'est clair.
C'est des moments qu'on ne vit que chez nous, du coup, parce qu'effectivement, c'est des artistes qui ne se retrouveront vraisemblablement jamais encore sur scène, parce que c'est une sacrée coïncidence, ou alors c'est que c'est à Paris cet été parce qu'ils viennent tous. Non, c'est vrai que c'est des moments... C'est ça aussi l'événementiel, de vivre des moments uniques que tu ne reverras pas, quoi.
C'est clair. Niveau restauration, messieurs, pour ceux qui avaient faim sur le salon, ils ont eu de quoi... nourrir avec 25 stands face à 18 l'an passé.
C'est ça.
Mais pas le vendredi, parce qu'il y en avait quand même
beaucoup dehors,
en fait. Et donc, le temps qu'on trouve des solutions pour en rapatrier un certain nombre, c'est vrai que vendredi, c'était un poil compliqué pour se sustenter.
Par contre, il y avait beaucoup de choix, il y avait beaucoup de choses japonaises, bien sûr, mais aussi de quoi satisfaire les gens qui venaient sur le côté Amazing. Avec un peu de nourriture coréenne.
Moi, j'ai mangé un très bon corn dog, qui est donc une version un peu particulière, parce qu'il y avait moitié fromage et après, tu avais moitié saucisse. Mais du coup, ça déchirait, quoi. Surtout quand tu l'as, qui vient juste d'être fait, là, qui est bien chaud, bien fondant, c'était vraiment très bon.
Et il y avait du curry que j'ai particulièrement aimé. Moi, j'ai mangé tous les jours au même restaurant.
Le curry était bon. J'ai mangé quoi Ah oui, il y avait des yakisoba aussi qui déchiraient. Les gyoza étaient très bons. Donc,
toi,
merci à tous.
Tu mangeais les bento ou tu mangeais les repas des restaurants ?
Alors, bento, mais comme je te disais tout à l'heure, quand, je le fais simple, hein, quand Nicky Larson te dit « la gaufre, elle est bonne », tu vas chercher une gaufre, les gaufres avec les genres de bulles, là, de ronds.
Ah, les bubble waffles. Waffle.
Exactement. Oh là là.
Plein de Nutella dessus ou...
Tu as vu mon gabarit, évidemment, beaucoup de Nutella, de la chantilly, plein de trucs qui passent, évidemment.
Bon, en tout cas, je
me sens que... Il y avait la place, et surtout, il y avait la place pour manger, et ça, c'était très très bien.
C'était cool. C'est une bonne nouvelle, il y avait de quoi du coup bien manger si je comprends bien. Et évidemment une diversité des exposants, brocante japonaise, village des créateurs, maisons d'édition comme Kana, Meiya, Nissan Manga. Donc il y avait vraiment de quoi faire je pense en termes de stands.
Et les stands de culture, enfin de lifestyle, plus que de culture traditionnelle, les stands de lifestyle étaient vraiment sympas. Il y avait la brocante qui était grande et où il y avait énormément
de Amaya, on les avait déjà eu. Alors, je ne sais plus si c'était venu à Marseille, mais ils étaient venus à Orléans et Paris, dans mes souvenirs. C'est des gens qui amènent des produits d'artisanat traditionnel japonais d'occasion. Et coup, ça fait des super produits, pas très chers, malgré le fait qu'ils amènent tout... Japon, et c'est vraiment un truc exceptionnel et unique qu'on voit pas dans d'autres manifestations.
Il y avait aussi des vendeurs de... Alors j'ai que le mot anglais, la tableware, des ustensiles.
L'art de la table.
Voilà, les arts de la table avec des donburi, avec des baguettes, avec des verres, avec tout au format Japon et artisanal. Il y avait des revendeurs de thé, enfin il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour ceux qui voulaient vivre un petit peu de Japon par procuration, quoi.
Et après, on nous avait remonté, notamment dans les sondages et autres, qu'il y avait un peu trop de stands AliExpress. Honnêtement, il y en avait quelques-uns qui étaient fournis sur AliExpress. Mais quand on prend la brocante japonaise, c'est 100% produit authentique japonais. Et les produits AliExpress, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Alors après, peut-être que certains confondent, mais dans la zone amateur, loisirs et tout ça, il y a pas mal de gens qui font leur propre création. Donc, ils peuvent peut-être acheter certains... produits à droite à gauche pour créer des... Alors, on a... Comment ça s'appelle déjà? Les Kokedama, c'est ça?
Ouais, Kokedama, ah, il y a plein de choses. Et puis, tout le but du jeu, justement, c'est dans l'écosystème, il y aura toujours des stands qui ne vous intéressent pas. Mais comme il y a une grande diversité de stands, fouillez, allez jusqu'au bout des choses. Vous n'arrêtez pas au premier stand que vous voyez devant, qui sont souvent ceux qui se dépêchent le plus pour arriver sur le festival. Donc, ils sont souvent les plus visibles, c'est vrai. Mais si vous voulez une offre plus rare, fouillez dans les allées, allez voir au fin fond du salon et vous trouverez des trucs de fou.
Et ce qui serait intéressant d'ailleurs quand vous nous remontez, qui vous avez vu des stands AliExpress, il ne faut pas hésiter à nous donner les noms des stands aussi. Parce que là sur Marseille, je ne sais plus combien on avait de stands.
400 de stands?
Ouais. Je sais plus, mais il y en a beaucoup et on peut pas forcément tout voir. Et quand ils nous voient arriver avec nos gilets et staff, il y en a certains qui sont suffisamment malins pour tout planquer. Donc, si vous avez des stands qui vous ont paru proposer des produits qui ne sont pas tout à fait officiels ou de mauvaise qualité, etc., faut pas hésiter à nous les nommer parce que derrière on sera plus attentif.
Ok. La scène. Oui, excuse-moi, Ed.
Je me permets juste, merci beaucoup. Je me permets, parce que Thomas, tu parlais d'immersion et de Japon. Il y avait aussi une exposition sur les châteaux japonais.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de celle-là, parce qu'on parle souvent de celle sur les auteurs, avec Ojo, Terasawa, Blackjack et compagnie. Mais les châteaux japonais, donc, qui a été?
Oui, bah bien sûr. Parce qu'on a eu, avec mon épouse, on est allé au Japon. On a fait le tour de quelques châteaux japonais. Et justement, on voulait un petit peu voir, puisqu'il était, teasé le fait qu'on ait visité ou non, on pouvait y trouver un intérêt. Et c'est vrai, il y avait plusieurs châteaux japonais avec des photos, des descriptions. J'ai trouvé ça, très honnêtement, super intéressant pour l'immersion. Ça m'a même donné envie, pourquoi pas, d'y retourner et de découvrir ce que nous n'avons pas vu.
On va t'enregistrer, on va envoyer ça au JNTO, ils vont être contents.
Ouais, et j'en profite parce que c'est une expo qu'on n'a pas fait tout seul. Ça, c'est une expo qui vient quand même de chez nos amis de ComSiProd. Julien, Denis et Guillaume Menzer, on vous passe un grand merci parce qu'on était très contents de refaire cette expo avec vous. Voilà.
Très, très bien. La scène Figo a également été améliorée. On en a parlé dans tous les sens avant le salon. Et on l'a vu beaucoup aussi ce soir. Je pense que vous l'avez remarqué pour ceux qui étaient sur place.
Et elle était streamée. Ça veut dire que tout le monde aurait pu voir le super concert.
C'est ça, elle était streamée. Et on a quelques chiffres également. Thomas, je te lance dessus, hein, concernant le Twitch.
Il y a eu un peu plus de 6000 spectateurs uniques qui ont regardé le live pendant les 3 jours. C'est très étonnant pour nous. C'était une première expérience. Alors, on stream la scène Taquet à Paris, mais c'est la première fois qu'on fait ça à Marseille. Et le fait que la scène soit toute belle comme ça, c'est ça aussi qui nous a donné envie
de la montrer
encore plus, et puis de faire profiter de la programmation qu'on a mobilisée au plus grand nombre. Et c'est vrai que les 6000 spectateurs, c'est pas mal pour un début. On espère que vous serez encore plus nombreux à l'avenir, parce que c'est des choses, dites-nous d'ailleurs, hein, est-ce que les streams c'est bien, est-ce qu'il faut qu'on continue, qu'on développe, qu'on déploie?
N'hésitez pas à nous le dire dans le chat, évidemment. Écoutez, est-ce qu'il y a peut-être une anecdote que tu n'aurais pas raconté ce soir à Japan Expo Marseille, que ce soit en perso, avec un invité, ou sur scène, ou même ailleurs? Est-ce qu'il y a des petites anecdotes comme ça que tu pourrais nous lâcher en exclusivité pour nous, ici même?
Ah, il se passe tellement de choses, mais c'est souvent des off. Depuis que je fais Japan Expo, j'ai malheureusement, et j'en suis désolé pour ma communauté, mais appris à faire la différence entre ce qu'on peut raconter sur YouTube et des choses que malheureusement on ne peut pas raconter. Mais j'ai envie de dire une chose qui me semble assez importante. Je me suis lancé sur YouTube, j'avais 40 ans. C'était il y a à peu près 3 ans. Aujourd'hui, si vous avez une passion, n'hésitez pas. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et vous allez vivre des choses incroyables.
T'as bien raison. C'est un très beau message que tu livres ce soir. N'hésitez pas. Voilà, ceux qui hésiteraient peut-être dans le chat à faire quoi que ce soit, quel que soit le domaine d'ailleurs, dans votre passion, foncez-y. Ed, comme tu l'as dit, tu es un bon exemple.
C'est jamais trop tard.
Évidemment.
On peut toujours se lancer, changer. Même là, on parle de ça, mais changer de vie aussi. Hein. J'en ai vu. Moi, j'ai eu la chance là de rencontrer des lycéens qui étaient là dans le cadre d'une sortie organisée par. Je ne sais plus si c'est un centre ou quoi, et qui nous avait contactés en amont pour savoir si certaines personnes de l'organisation étaient d'accord pour leur présenter nos métiers, parce qu'ils sont justement en train de chercher vers où s'orienter. Ouais. Et donc, j'ai passé une demi-heure, trois quarts d'heure avec eux à leur expliquer ce qu'est Japan Expo, les différents métiers qu'il y a au sein de l'entreprise, comment ça se prépare, etc. Et on les voit qui ont plein d'étoiles dans les yeux, qui ont envie de... Alors, il y en a certains qui voulaient être mangaka, d'autres qui voulaient être organisateur de Japan Expo. Il n'y a pas tant de place que ça non plus. Mais c'était vraiment passionnant, et de voir ces petits jeunes. Alors, il y en avait certains, en plus, ils n'avaient aucune barrière. Donc, ils ont posé toutes les questions qu'on n'ose jamais me poser. Mais c'était super intéressant, parce que moi, je réponds à toutes les questions. Donc, pas de souci. Mais on sentait une fraîcheur, une envie d'avancer, etc. Donc, c'était vraiment bien. Et c'est vraiment, je pense, ça, à partir du moment où vous avez une passion... et que c'est un moteur, lancez-vous, quoi. Vous avez à peu de chances d'échouer, si vous avez vraiment la passion. Et puis, de toute façon, vous aurez au moins un truc, c'est que vous aurez essayé, et vous n'aurez pas de regrets, quoi.
C'est ça. Vaut mieux vivre de remords que de regrets, parce que quand on a des regrets, on ne pourra jamais revenir dessus, donc du coup, il faut y aller. Disons, c'est très, très positif et philosophique comme intervention, monsieur Ed.
J'ai dérivé, hein.
Pour te dire, alors ça m'est arrivé ici à Japan Sud, mais aussi à Japan Paris, les deux fois. J'ai eu des gens qui sont des jeunes en général, qui sont venus sur scène ou avant mon passage ou après mon passage, sans savoir qui j'étais. On a un petit peu discuté et encore une fois, c'est arrivé encore à Marseille. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un jour, je serai là et je me ferai interviewer sur cette scène. Et très honnêtement, moi, je leur dis tout le temps, il faut qu'ils se donnent les moyens. Et ça sera avec grand plaisir que je ferai mes interviews avec ces inconnus d'aujourd'hui, peut-être ces futurs stars, ou en tout cas acteurs du monde du manga ou de Japan Expo de demain.
Je vais chialer, Ed. Je vais chialer. C'est trop beau ce que tu dis. On peut pas faire mieux, là. On va s'arrêter là.
La première fois que je l'ai vu, j'ai cru qu'il était catcheur, moi. Je me suis dit, tiens, on a remis un ring, on m'avait rien dit.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Ed, pour ton intervention. C'était un plaisir de t'avoir avec nous dans En route pour le Japan Expo. On espère que tu reviendras à l'occasion.
Et du coup, si vous voulez encore plus d'infos sur le manga, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur sa chaîne. Il est passionnant comme ça tout le temps.
C'est ça. Merci beaucoup.
La chaîne est dans la description, dans le chat, excusez-moi, en épinglé. Donc n'hésitez pas à cliquer, à vous abonner sur sa chaîne pour regarder toutes ces vidéos et toutes les vidéos à venir. D'ailleurs, c'est quoi les prochaines actualités? Est-ce que tu peux nous en dévoiler un petit peu? Est-ce qu'il y a une vidéo en préparation prochainement ou des projets, Ed?
Alors, il y a une vidéo lecture qui va arriver où j'ai lu pas mal de choses très différentes et vous allez voir qu'il y a de très très bons mangas et pas très connus de surcroît. On va également, j'espère le mois prochain, faire une vidéo où je vais découvrir une mangatech assez exceptionnelle en direct chez quelqu'un. Et puis, voilà pour l'instant. Comme j'ai dit, on va essayer de sortir aussi un des coms à la maison qui a été fait à Japan Sud. On va essayer de le sortir en vidéo.
Et ben, très bien. Très bien. Merci beaucoup, Ed, pour ton intervention. Et on se dit à très bientôt. On continue l'émission, évidemment, avec les questions-réponses.
Mais avant, on voulait souhaite... juste un petit truc sur Sud, parce qu'on on avait le World Cosplay Summit. Ouais. Et du coup, la sélection française des cosplayers qui vont représenter notre cher pays,
Nagoya,
a été faite. Et on n'a pas...
Voilà, on voulait juste féliciter au passage.
On n'a pas félicité Koneko et Sati qui ont donc gagné cette année leur billet pour représenter la France à Nagoya au mois d'août, hein, le World Cosplay Summit. Donc félicitations à Koneko et Sati. On espère que vous allez, comme il y a 2 ans, nous ramener la coupe à la maison.
Parce que c'est toujours sympa.
Effectivement, bravo à vous. Merci Ed, merci. Et on continue ensemble avec les questions-réponses. C'est parti, jingle. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, Jean-François. Tu as dit qu'on pouvait te poser toutes les questions sans filtre. Donc n'hésitez pas dans le chat à poser toutes les questions sans filtre. Et Jean-François est obligé d'y répondre parce qu'il a dit qu'il répondait.
Et
à
moi
tout.
Après, je.
Tu coupes le micro. N'hésitez pas. Non,
c'est pas vrai, allez-y.
À poser toutes vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Évidemment. On commence par KaikoFR qui dit. Bonsoir, j'ai une question. Vous
est-ce
savez,
que
c'est le groupe.
UNPR viendra à Japan Expo.
Alors, est-ce que on sait si UNPR viendra? Oui, on sait si UNPR viendra.
Voilà.
Voilà.
On a répondu à la question.
Quel genre de questions sans filtre est-ce que j'ai eu? Par exemple, il y en a un petit qui n'avait pas froid aux yeux, alors que j'étais donc avec. Avec plusieurs de nos employés, hein. J'étais avec la DRH, j'étais avec la responsable d'accueil visiteur et tout ça, il nous a gentiment demandé « Et vous, combien vous gagnez d'argent ?» Et du coup, en France, on n'a pas tout à fait l'habitude de parler d'argent et tout ça. Ils nous ont aussi demandé combien ça coûtait Japan Expo, combien ça coûtait de louer le hangar. Ça s'appelle le parc d'exposition de Marseille, c'est pas un hangar.
C'est du hangar de Gaulle.
Donc voilà, tout ce genre de questions qui sont... ils sont rarement posés parce qu'effectivement, dès qu'on a atteint un certain âge, on n'ose pas parler d'argent ou quoi que ce soit. Et bah, c'était un plaisir de leur donner une idée parce qu'effectivement.
Mais du coup, combien tu gagnes, Jean-François?
Alors.
Alors.
Ça dépend des années déjà. Non, mais voilà, ils voulaient avoir une idée de si dans l'événementiel, ils pouvaient gagner des sous, évidemment.
Bien sûr.
Et quand tu commences saisonnier, tu vas avoir le SMIC. Et puis après, quand tu as plusieurs années d'expérience et que tu as des postes importants chez nous, il y a des gens qui peuvent gagner entre, on va dire que ça va entre 25 et 60 000 euros, toi. Donc voilà, c'est une question d'expérience, c'est une question de responsabilité par an. Ah non,
merci pour la précision. Alors, on n'était pas sûr.
Je
peux pas travailler à Japan Expo, moi, si c'est.
Oui, 25 000 euros minimum par mois, évidemment.
On peut gagner sa vie, on peut bien travailler, on reste dans un milieu de la culture, on reste dans un milieu qui est très particulier où il faut beaucoup se donner. Et ça donne des belles rémunérations aussi quand on...
Brut ou net dans la chaîne.
Brut ou net, j'aime beaucoup. Après, il faut savoir que, par exemple, beaucoup de gens chez nous ont 8 semaines de vacances parce que comme on travaille beaucoup, certaines périodes, quand on travaille les week-ends, etc., on cumule des jours de congé et on se retrouve... J'ai même des gens qui ont, je crois, une dizaine de semaines de vacances à l'année, quoi. Donc, voilà, c'est un autre... ils font ça aussi parce que ça leur plaît.
Ryuen, il n'y a pas de stagiaires non rémunérés chez nous, en dehors peut-être cette année du fils de Jean-François qui est venu... Non, même pas.
Bah, c'était un stage d'observation. Voilà. Donc ça,
mais
c'est
non, nous, on respecte, on respecte la loi et tous les stagiaires sont rémunérés.
Et tous les gens qui ont des gilets rouges voilà. sont rémunérés.
Ils ne sont pas stagiaires.
On a parlé de nos bénévoles. Salariés. Il n'y a pas de bénévoles, tout le monde est salarié en fait.
Ça, c'est vrai que ça, c'est un truc qui est très flou. Parce que même moi, avant finalement de vous rencontrer, de connaître un peu plus l'envers du décor, on a, j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, c'est des bénévoles, voilà, les gens qui travaillent à Japan Expo pendant le salon.
Pas du
c'est
pas
du tout le cas, voilà, sachez-le. Sont tous rémunérés. Donc,
toutes les personnes avec des gilets staff ont un contrat, ont un salaire. Voilà, là, on est justement... On n'a pas fait le journal de bord cette année, mais on est en train de finaliser les fiches de paye de tous ceux qui ont travaillé pour nous à Marseille et qui seront payés cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà. Donc, il n'y a pas, sauf cas exceptionnel, de stage d'observation. On a des stages, par exemple, de 3e, 4e qui viennent. Et effectivement, c'est...
Ah, ils viennent une semaine.
Ils viennent une semaine, ils viennent un mois. C'est parfois très court même.
Effectivement. Razor12 dans le chat qui demande est-ce qu'il reste encore des billets zen pour Paris ?
Oui.
Oui, sur Paris, il en reste 40%, je crois. Ouais. Donc, on a eu un beau décollage quand on a fait le lancement de la billetterie et autres. Et puis là-bas, ça se vend assez bien. L'année dernière, on avait fini les ventes fin mai, je crois.
Ouais, un truc comme ça.
Donc, bon, vous avez encore du temps, mais ça se vend un peu plus vite. Donc, méfiez-vous de pas
puis,
vous faire...
Et puis, on est en train de bien travailler aussi sur les billets zen. Et du coup, on aura des choses à annoncer dans les semaines qui viennent.
On devrait avoir un bel avantage qui n'était pas encore annoncé. Là, on attend d'avoir les papiers qui...
Voilà,
qui
une fois que c'est signé dans le dur, on vous l'annoncera.
Très bien. Rémi Toussaint qui demande, est-ce que la queue de la finale de l'ECG pourra être mieux gérée cette année ?
Alors, on s'est identifié ce qui s'est passé et oui, ce sera corrigé.
Alors, on a notamment pu tester avec un certain nombre de gens qui ont fait la finale de l'ECG en 2023. Là, à Marseille, ils étaient quasiment tous là. Donc, j'ai fait un entraînement grandeur nature. Alors, c'est pas tout à fait le même nombre de gens qu'on gère à Marseille et qu'on gère à Paris. Mais on a pu s'entraîner justement pour qu'ils voient bien quelles ont été les petites erreurs qu'ils avaient faites. Le problème, c'est que c'est l'effet papillon. Une petite erreur, un gros bordel. Donc, voilà.
Muno VT qui demande « Bonjour, comme chaque année depuis l'édition du Phoenix, il y aura-t-il des VTubers cette année à Japan Expo Paris ?»
On y travaille.
Ah bah, il y a 4 sociétés avec qui on travaille, quelques VTubers indépendants. Maintenant... Il faudrait. Bah, ça arrive parfois qu'il n'y ait rien de toutes les pistes qu'on a qui se concrétisent.
Mais il y a des pistes. Après, on essaie aussi de chercher comment travailler ça au niveau événementiel, parce qu'on a tenté des choses l'année dernière et on aimerait bien augmenter l'expérience pour l'année à venir.
Très bien. Babou Blim qui demande bonsoir à tous, quel est l'invité le plus difficile que vous ayez eu à faire venir ?
C'est-à-dire pour le décider ?
Pas de précision, j'imagine, entre le moment où ça a été décidé et le moment où il était là à Japan Expo, c'était lequel le plus...
Il y a une grosse différence entre les gens qui sont durs à convaincre à venir et les gens qui sont durs à gérer sur place.
C'est ça, oui, voilà, il faudrait préciser ça.
Dans les gens durs à convaincre à venir... pas facile, hein, parce que...
Miyamoto ?
Ouais.
Bah, ça a duré longtemps. En fait, c'est pas dur,
Matsumoto
c'est long.
Matsumoto aussi, parce qu'il s'est trompé de salon un certain nombre de fois. Matsumoto Leiji, c'était compliqué. Après, c'est souvent des inquiétudes légitimes, parce que quand on prend des gens d'un certain âge, qui n'ont parfois jamais quitté le pays, etc., ils s'inquiètent de comment ça va se passer à l'étranger, qu'est-ce qu'on va manger, qui c'est qui va m'accompagner, mais je perds pas la langue, comment je vais faire, où est-ce que je vais dormir, est-ce que je peux venir avec ma femme. Ils ont plein de questions. Et donc, on a tendance à faire presque du babysitting à ce moment-là pour vraiment leur tenir la main. Et c'est là qu'interviennent des gens. On a vu sur les émissions du mois de décembre, on avait accueilli Pierre Giner, qui est un peu spécialiste du babysitting, ou comme il le dit lui parfois, le papysitting, parce qu'effectivement c'est plus les animateurs d'un certain âge qui ont du mal à avoir ça.
Et puis il y a les difficultés de communication avec les entourages des artistes quand ils sont un peu connus et qu'ils ont des entourages très denses. Mais c'est rarement dur, ça peut être très long, ça peut être effectivement très précis, très pointu. c'est rarement dur, quoi. Il y a, on se fait pas envoyer paître, par exemple. Mmh. Il y a des gens qui nous disent non, merci, ça nous intéresse pas, mais c'est pas. Voilà, c'est pas.
Après, sur place, en gestion, ouais. Ça a rarement été compliqué. S'il y a eu la première fois avec Yoshiki, parce que son management faisait un peu
mais
n'importe
c'était,
quoi.
C'était
mais l'avantage qu'on a avec les Japonais, c'est que c'est dur de les convaincre. Par contre, une fois que c'est fait, il y a
comme,
un truc qui
comme
carré,
c'est très précis. On a tout détaillé, tout est prévu à l'avance. Donc, du coup, il y a beaucoup moins de surprises. Et il y a effectivement, on en a beaucoup parlé, des clamps, comme je vois là dans le chat. Mais c'est des caprices de star, entre guillemets, au sens où c'est pas sympa forcément à gérer. Ou la fameuse eau de Fiji de Yoshiki. Mais c'est des choses qui sont pénibles. Mais en général, plus tard, ça fait rigoler, quoi.
Oui, sur le coup, c'est très compliqué à gérer. Mais après, on en. Et des anecdotes à rencontrer en Twitch.
Effectivement. Allez, on enchaîne avec plein de questions. Je vois que vous avez plein de questions ce soir. On va essayer d'y répondre un maximum. Darkan, est-ce que un jour nous aurons l'occasion de retourner au Palais des Congrès pour Japan Expo
Palais des Congrès à Marseille.
À Marseille.
C'est une longue histoire. On a fait là une scène qu'on trouve super belle dans le hall 1. Donc on est sur quelque chose où on est sur un niveau. Le problème qu'il y avait avec le Palais des Congrès, alors il y avait plein d'avantages, c'est vrai, mais les gens s'y perdaient. C'est-à-dire qu'on avait plus de gens qui nous avaient fait des retours pas positifs sur le Palais des Congrès parce qu'il y avait les trois niveaux, il fallait se repérer dedans. Dans la circulation avec les autres espaces, c'était compliqué.
Oui, puis on a même eu un recours très concret. New Titeuf, qui était donc notre invité cette année, et qui avait fait aussi Japan Expo en 2020, Japan Expo Sud en 2020, dans le Palais des Congrès. Il nous a dit, c'est carrément vachement mieux, il ne faut surtout pas y retourner. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la
volonté. Il y avait
des
dédales, enfin, il y avait des salles du coup qui étaient très, très, mal visitées parce que les gens ne les trouvaient pas. La valorisation d'espaces comme les espaces d'arts martiaux était moins bonne. Enfin, il y a un genre de souvenir qui est resté et qu'on pense, nous, attaché à l'amphi, on va dire, la scène. Mais justement, en répondant, en se mettant dans le hall 1 et en ayant cette belle scène pleine d'effets spéciaux, on pense que ça répond bien mieux à la fois à nos besoins de circulation, de repérage des gens et à la qualité de l'expérience quand on regarde la scène principale.
Sans compter que la scène Ichigo telle qu'on l'a fait cette année, elle contient quasiment 50% de personnes en plus que l'amphithéâtre dans le Palais des Congrès.
Ce qui compte parce que le nombre de gens a augmenté aussi. C'est clair.
Kitty Cat qui demande, avez-vous déjà bouclé votre liste d'invités pour Japan Expo Paris?
Alors, on a 80% de la liste.
Ah, quand même.
Il faut quand même, parce qu'il reste pas
mais c'est pas
tant
tout
que ça.
Signé.
On a pratiquement pas de gens signés pour le moment. Il y a beaucoup de contrats qui sont partis. On attend les retours des artistes français, japonais, etc. Donc, on va faire des annonces en fin d'émission.
Voilà.
Pour commencer. Et puis il y aura pas mal d'annonces dans la prochaine émission. Puis quand on va partir à Marseille, oula, quand on va partir à Tokyo, ah on l'avait pas fait encore. Quand on va partir à Tokyo au mois d'avril, il y aura pas d'émission, donc on va vous manquer. Mais on va revenir avec plein de bonnes nouvelles.
Ça permet en fait d'aller là-bas et de signer,
d'accélérer un peu. Tout
voilà. Mais par contre, ça sent bon. Voilà, vous dire c'est que ce qui est en cours, ça sent très bon.
Bonne nouvelle. Sento28 qui demande est-ce qu'il y aura la possibilité de refaire le tirage au sort des dédicaces après quelques temps si on perd ou au moins juste avant la séance s'il reste des places.
Alors généralement c'est pas quelque chose qui est proposé parce qu'effectivement il faut laisser des tentatives à tout le monde en fait. C'est pour ça qu'on fait ça, c'est quand vous avez pas réussi, bah faut laisser les autres tenter leur chance. Si jamais il y avait vraiment un artiste comme ça où il y a eu des tentatives mais il n'y a pas eu de gagnant, ce qui n'est pour l'instant jamais arrivé, on pourrait l'envisager. Mais voilà. Après j'ai vu une autre question un peu dans le même jour, c'est est-ce qu'on peut jouer pour la même dédicace sur 4 jours? Vous pouvez jouer une fois par jour pour un artiste, mais par contre à partir du moment où vous l'avez gagné, c'est fini. C'est-à-dire, pour laisser la place aux autres, si vous avez gagné vendredi la dédicace de Tsukasa Ojo, vous ne l'avez plus les autres jours, si on reprend l'année dernière. Et par contre, s'il a plusieurs séances de dédicace, si vous perdez à la séance de dédicace du matin, vous avez le droit de tenter votre chance à la séance de l'après-midi, par exemple.
Okay. N'hésitez pas, hein, si vous avez posé des questions et qu'on les a loupées, n'hésitez pas à les reposer. Si vous en avez aussi également de nouvelles, n'hésitez pas à en reposer également. Scarab OR qui demande, y aura-t-il des émissions depuis le Japon en avril ?
Non.
Non, malheureusement, il n'y a pas de d'émissions au Japon.
Est-ce que Scarab OR fait passer de Murasaki Team ou pas ?
Comment ça ?
Est-ce que Scarab OR fait partie de la Murasaki Team ?
Je ne le connais pas, mais je le prends pour mon cœur.
Après, si vous voulez, on peut peut-être lancer une... de cagnotte pour financer les enregistrements au Japon.
Ouais. On est sûr que Murasaki est tout à fait pour.
Un petit Patreon.
Out One qui demande...
voire où... même, on met la régie en OnlyFans, hein. On y va, nous.
Ah ouais, tout ça. On est... Out One qui demande, pourrait-on avoir des invitations des groupes de Love Live à Japan Expo ? Il y a d'autres, plein de citations de trucs. Parce que Love Live, il y a déjà eu des choses autour de Love Live à part...
Je crois pas, c'est un peu... Enfin, ils sont extrêmement populaires au Japon, ouais, et extrêmement occupés.
Il y a eu des happenings, il y a eu du contenu dans les stands exposants japonais sur Love Live. Alors après, quoi exactement ? C'est flou, en tout cas dans ma tête. Mais on n'a jamais de concert de...
Non, logique, il n'y a pas de concert. Mais c'est quelque chose qu'on étudie, tout comme on étudie un peu tout ce qui vient du Japon. Hein. Donc Love Live, c'est toujours intéressant. Ah. Là, j'ai vu dans le chat qu'on disait qu'il y avait un groupe qui se produisait ou une personne qui se produisait à New York. Donc c'est des choses qui peuvent s'envisager, mais c'est vrai que ça dépend de plein de trucs. Il faut savoir que là, par exemple, on a plusieurs groupes de musique qu'on visait pour cet été qui ont décliné, pas parce que ça ne les intéresse pas ou quoi que ce soit, mais simplement parce que à cette période de l'année, il y a pas mal de festivals de musique au Japon, pas mal d'événements. Ils célèbrent des trucs autour du 14 juillet, je ne sais plus ce que c'est. Mmh. Mais pour le coup, ils se retrouvent coincés au niveau du planning. Et même si on nous fait passer plein de messages sur Hatsune Miku et compagnie, ce n'est pas un manque de volonté, c'est souvent que ça ne matche pas en termes d'emploi du temps, en termes de plein de choses. Quoi. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Je ne sais pas si vous... Tout le monde se rend bien compte, mais faire un événement comme celui de Paris, c'est plein de choses qu'il faut maîtriser. Et parfois, c'est pour ça qu'on s'y prend très longtemps à l'avance. On parlait d'invités, je disais 80% pour la liste 2024, mais on a déjà 5% de la liste 2026 aussi.
Ouais. Ok. Question suivante, Yukihime Kitsune qui demande, est-ce qu'il va y avoir des modifications au niveau du Wi-Fi gratuit dans le salon ? L'année dernière, j'ai capté zéro connexion Wi-Fi.
Alors, le Wi-Fi gratuit est mis en place par...
C'est Viparis qui le met en place. Ça,
c'est pas vous qui gérez ça.
Non, c'est l'infrastructure. Et après, le problème, c'est que c'est le seul événement de l'année où vous êtes aussi nombreux. Donc, il n'est pas du tout conçu
pour ça, effectivement. Vous savez, si vous avez suivi un petit peu les émissions depuis les premières saisons, il y avait une némésis un petit peu pendant les questions-réponses. C'était les VTubers. Depuis... Les VTubers sont venus à Japan Expo. Depuis, on a beaucoup moins de questions, quoique aujourd'hui, il y en avait une. Il y en a une nouvelle, c'est « Y aura-t-il du catch à Paris cette année ?» C'est une question qui commence à revenir souvent, j'ai l'impression, aussi, dans les émissions. Faut la battre, cette...
Il y en avait à Marseille, du catch.
Effectivement.
Hein.
Et à Paris, cette année, est-ce qu'on peut imaginer du catch ou
Alors, à Paris, cette année, du catch, c'est pas parti pour, j'ai l'impression.
Aïe, aïe, aïe.
Il faut savoir que on... Quand on a été à Tokyo en décembre, on a eu quand même une petite douche froide, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises et d'artistes japonais qui se sont mis en tête qu'il ne fallait pas aller en France juste avant les Jeux Olympiques.
Voilà. Donc, le plus grand combat, c'est de leur dire « Mais si, venez, il y a plein de fans qui vous attendent, même pendant les Jeux Olympiques, enfin, même juste avant les Jeux Olympiques. »
Et donc, du coup, il y a pas mal de choses où on nous a dit « C'est super. » Pour 2025. Voilà. Donc, on va avoir un programme assez sympathique cet été. Mais, effectivement, quand on voit les autres opportunités qu'on a loupées à cause des Jeux Olympiques ou de la peur des Jeux Olympiques par les Japonais, on peut avoir un truc encore plus impressionnant.
Mais on se rattrape.
Effectivement. Allez, messieurs et dames, c'est le moment que vous attendez tous, je le sais, c'est le concours pour cette émission. Et cette fois-ci, on va vous faire gagner un magnifique lot pour trois personnes de deux shikishi dédicacés. L'un
par Tsukasa Kotobuki et l'un par Mamoru Yokota. Est-ce que tu peux le montrer, Jean-François, s'il te plaît? Trois gagnants qui gagneront deux missiles différents. Donc. Dédicacés à la main, voilà, directement par ces messieurs. Allez, un pour Thomas, pas de jaloux. Et un pour Jean-François, vous montrer les deux.
Donc ça, c'est celui de Monsieur Yokota. Ah, c'est intéressant. Et voici celui de Monsieur Kotobuki. On voit la dédicace.
C'est ça.
Et donc, il y a trois lots comme ça. Vous allez pouvoir gagner. Trois lots de dédicace.
Shikishi. Ben, c'est un très beau cadeau qu'on fait gagner ce soir, les amis. Pour participer, excusez-moi, il faut taper tout simplement Shikishi. S-H-I-K-S-H-I. Shikishi. Voilà, dans le chat, et voilà, vous participez une seule fois, ça suffira. De toute façon, il n'y aura qu'une seule fois, ce sera comptabilisé. Ça ne sert à rien de le répéter plein de fois. Shikishi dans le chat, et vous pourrez gagner ces très beaux cadeaux qui sont dédicacés à la main lors de Japan Expo Marseille, j'imagine.
Exactement.
Par Tsukasa Kotobuki et Mamoru Yokota. Pendant ce temps...
Ouais, moi j'avais une petite question que j'ai vu passer deux fois.
Je sais que t'aimes bien poser la dernière question.
Bonus. Il l'a posé plusieurs fois sur les exposants. Donc, yes. On nous demandait la liste des exposants. Elle va certainement arriver au mois d'avril. Pour l'instant, ce qu'on peut déjà vous dire, c'est qu'en termes d'exposants amateurs et passion, il n'y a plus de place. Quasiment, il y en a un, il est sold out, et l'autre, il y en a bon, resté une dizaine. Sur 700, je ne sais plus. Donc voilà, on est vraiment sur la fin, sur tout ce qui est aussi coup de pouce, donc pour les jeunes entreprises ou les jeunes créateurs qui se professionnalisent.
On arrive au bout aussi.
Arrive au bout. Donc la liste des exposants, elle va arriver. On est en train de faire les placements et tout ça. Donc ça, ça prend un petit peu de temps. Quand tu as 600 personnes à placer, voilà.
Les grandes marques que vous attendez tous sont reconduites aussi.
Oui. Enfin, il y a même des nouveaux.
Il y a plein de nouveaux. Ça va être bien, ça va être bien.
Et là-dessus, donc du coup, on est en train de préparer les plans pour pouvoir faire les placements. Et quand on aura placé tout le monde, bah, on va pouvoir publier ces listes-là parce que c'est intéressant que vous puissiez avoir la liste avec les numéros de stand directement.
Et c'est un sacré jeu de Tetris que de placer tous ces exposants. On a un peu plus de 900 exposants en tout. Il faut imaginer que, en général, tout le monde va être à peu près au même endroit. Donc, c'est une sacrée gymnastique que notre service commercial accomplit avec brio.
Effectivement. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, on passe tout de suite aux annonces de cette semaine. C'est parti. Et jingle! On est parti pour les annonces de la semaine. Et cette fois-ci, direction Paris, avec les premières annonces niveau cosplay.
Alors,
là, c'est des rappels.
On va faire un petit rappel des annonces qu'on a faites et on va faire des nouvelles annonces. Mais l'Extreme Cosplay Gathering, donc la version...
Worldwide,
et c'est ça, le concours mondial de cosplay que nous organisons depuis maintenant un certain temps. On en est à combien d'années?
La saison 12.
Saison 12. Voilà. On voulait vous rappeler que la finale aurait lieu le samedi, donc 13 juillet, en fin d'après-midi.
Voilà.
Et que, du coup, bah, là, il y a quand même pas mal de sélections qui sont déjà passées dans différents pays et que là, depuis l'année dernière, c'est cette année qu'on a changé le mode de sélection, puisque
c'est un passage par. Par pays, parce que comme on est passé de l'Europe au monde entier, d'un coup, on s'est retrouvé avec beaucoup plus de pays. Et n'oubliez pas que vous pourrez enchaîner directement le dimanche avec les sélections françaises de la saison 13.
Voilà. Donc, n'hésitez pas à préparer vos costumes dès maintenant pour les inscriptions qui devraient avoir lieu un petit peu plus tard. Je ne sais pas si c'est mai. Mais voilà, sachez que ça aura bien lieu. Il y a toujours... la possibilité de partir au Japon pour les gagnants.
Et bien sûr, si vous voulez accéder et voir la finale et les sélections françaises de manière tranquille, vous pouvez acheter vos Star Pass ECG qui vous permettent d'entrer, d'être sûr d'entrer, d'avoir un emplacement dédié où vous pouvez arriver tranquille.
Voilà, c'est un carré réservé au Star Pass sur le devant de la scène.
Et bien sûr, le reste
rester et libre d'accès dans la limite des places disponibles.
L'accès est totalement libre. Il y a juste cette possibilité de réserver des places. On vous en parle parce qu'en fait, un peu comme tout à l'heure quand vous nous posiez des questions, les places, les Star Pass, ça file vite, plus vite que l'année dernière. Donc, on risque d'être à court de Star Pass plus rapidement que l'année dernière. Donc, ne traînez pas trop. On a aussi un autre concours qui est lié au cosplay, mais qui est un peu différent, puisque c'est le World Cinematic Cosplay Summit.
C'est ça, le WCCS. Où en fait, c'est un tournoi de cosplay, mais qui est entièrement enregistré. Il faut faire des vidéos, faut que les cosplayers fassent des vidéos de 2 minutes 30 pour participer. Il faut qu'ils racontent une histoire comme un genre de mini court-métrage. Et les costumes doivent obligatoirement être issus de manga ou d'animé.
Ou de jeux vidéo japonais.
Et ils peuvent pas. Et ils peuvent être achetés contrairement au WCS.
Voilà.
Très bien. Quelques petits rappels également de choses qui ont déjà été annoncées. Un grand monsieur qu'on a eu l'occasion de voir l'an passé.
Monsieur Kaida.
Yuji Kaida.
Donc, cette année, on célèbre les 70 ans de Godzilla. On avait eu le plaisir de l'accueillir, mais ça s'était fait un petit peu rapidement, un petit peu au dernier moment. Donc là, on est très content de prendre le temps de le réinviter, de préparer tout un tas d'activités avec lui, une exposition autour des 70 ans de Godzilla, de son travail sur Godzilla. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être connu. Voilà.
Il a un coup de pinceau incroyable et il le raconte très très bien.
Effectivement.
Petit rappel aussi, on vous a annoncé que les Kanagi Rabbits nous feraient le plaisir de revenir cette année sur Japan Expo Paris.
Elles s'inspirent de l'image des prêtresses Shinto, donc c'est assez rigolo. C'est un clin d'œil à la culture traditionnelle tout en étant dans le monde de la J-pop à fond les ballons.
Voilà, et première nouveauté pour l'édition parisienne, un autre groupe d'idoles. Alors, je ne sais pas exactement comment le prononcer parfaitement. Parce
a priori, juste comme...
Juste idol.
Voilà, idol.
Mais vous allez voir, ça s'écrit avec beaucoup de i, beaucoup de l.
Parce qu'elles le sont encore plus que les autres.
Voilà, donc ça, c'est un groupe de 6 jeunes filles qui a fait ses débuts le 17 septembre 2023. Donc, elle commence tout juste. Et le terme idol qui s'est implanté en tant que culture au-delà des frontières nationales et dans les esprits de ce groupe d'idol a été lancé pour justement avoir la capacité de se produire à l'échelle mondiale. Donc on est très content de les accueillir. Ça nous rappelle un petit peu le groupe Wasuta World Standard qu'on avait accueilli il y a quelques temps. Donc c'est très sympa de voir toutes ces initiatives qui ont envie d'aller à l'étranger et pas rester uniquement... Nippo-japonais.
Voilà, et elles se produiront sur la scène Tsubame, elles seront en dédicace et en photocall.
Ensuite, une habituée de Japan Expo, j'ai envie de dire.
Oui, on a le plaisir de faire l'annonce du retour.
Voilà, on aime bien les habitués. Parce qu'à la fois, on aime bien présenter des nouvelles personnes, mais aussi, on adore quand les gens viennent, reviennent et à chaque fois apportent de nouvelles expériences.
Et donc... Il s'agit de Mika Kobayashi, parce que du coup, on n'a pas dit son nom.
Ah oui. Voilà, Mika Kobayashi, qui est incroyable. Elle arrive même...
Chanteuse, autrice, compositrice de génériques de dessins animés comme L'Attaque des Titans.
On l'a vue seule sur scène, sur la scène Ichigo, tenir toute sa scène. Elle est hyper forte.
Voilà, elle sera en concert sur Tsubame, sur Ichigo, en dédicace, en photocall, et il y a même quelques... conférence qu'elle ne fera pas, performance pardon, qu'elle ne fera pas toute seule, puisque on a le plaisir d'accueillir de nouveau
Kamui.
Voilà, Kamui, donc cette troupe de spécialistes d'arts martiaux, de sabreurs, qui a travaillé notamment sur Kill Bill. Voilà, et qui, encore cette année, nous fera le plaisir d'être présent pour un show qu'on espère encore plus exceptionnel. Mais déjà, l'année dernière, c'était quand même... dingue. Et alors, ce qui est génial en plus, c'est qu'avec la scène Ichigo telle qu'on l'a lancée pour les 20 ans, il se retrouve avec un espace de prestation assez génial et on est très heureux de leur donner la possibilité de montrer tout l'étendue de leur talent.
Et ils sont aussi gentils dans la vie qu'ils sont agressifs dans leur spectacle. Il faut le dire, ils sont vraiment super sympas, donc n'hésitez pas à aller les rencontrer en dédicace, en photocall.
Je ne sais pas si on a eu l'occasion de le dire, mais le monsieur qu'on voit là, monsieur Shimaguchi, hein, était donc, en plus d'avoir participé à Kill Bill, faisait la chorégraphie de la fameuse scène.
Ouais, dans le restaurant.
Scène mythique, effectivement, d'un film qui l'aide tout autant. Bon, en tout cas, on a une très belle sélection d'annonces pour cette émission. Comme vous l'aurez compris, comme tu nous l'as dit Jean-François un petit peu plus tôt, il y aura plus d'annonces encore dans 2 semaines et encore plus après votre voyage au Japon, parce que beaucoup de choses vont se...
Quand on faisait le topo ce matin, il y avait 80 projets
en cours. Donc, et il y aura du J-Rock, et il y aura de l'animation, du manga, et du tout. Vous inquiétez pas, on en a pour tous les goûts, et les gens sont hyper mobilisés, c'est juste qu'on a un temps pour tout, et il faut vraiment qu'on puisse, on vous le disait tout à l'heure, là, quand on parlait de la difficulté, il faut tout préparer, tout planifier avant de pouvoir signer avec eux, donc c'est un peu long. Patience, mais sachez qu'ils sont motivés, et ils sont au rendez-vous.
Il ne faudra pas louper les prochaines émissions pour toutes ces belles annonces qui auront lieu ici même en avant-première. Et évidemment sur les réseaux sociaux de Japan Expo qu'on vous recommande vivement d'aller suivre pour ne rien louper. Mais si on arrive déjà à la fin de l'émission, c'est passé assez vite. Mais on
a tout dit. Croit qu'on a tout dit. On n'a juste pas parlé du Japan Expo Memories.
On va en parler.
On va en parler en conclusion tranquillement. Mais voilà, c'est ça fait plaisir quand on voit ces magnifiques scènes. À Sud, là, voir la vidéo du concert, c'est vraiment plein de bons souvenirs. Et du coup, j'espère qu'on va avoir encore plus l'occasion de faire ça à Marseille sous le soleil cette fois-ci.
Sous le soleil, surtout sous le soleil. et le pire, c'est que sous le soleil, cet été, on se dira il fait chaud sous le soleil.
En tout cas, pour Paris, on a vu pas mal de choses qu'on pouvait améliorer encore, donc on a parlé de l'ECG et tout ça, oui, mais aussi même en infrastructure.
Ouais, ça va faire du bien.
Et en plus, on voit là que, parce qu'on en a beaucoup parlé sur ce chat là, mais les hôtels qui étaient si problématiques commencent à avoir pas mal de désistements des Jeux Olympiques, etc. Donc
ça redevient raisonnable.
Des prix plus raisonnables, même si on n'est pas encore au prix standard. Mais voilà, si vous hésitez encore.
La vague des JO est en train de retomber.
Je ne vous ai pas oublié, contrairement à la régie, mais il y a 3 gagnants normalement pour les Shishi. On va me donner tout de suite, effectivement, plus à droite, s'il te plaît.
Alors là, on ne voit plus rien.
Ouais. Et du coup, les 3 gagnants des Shishi sont Only One Salty Yuki, Rémi Toussaint et Sunken 25. Voilà, vous êtes
bravo
les 3
tous.
Gagnants de ces magnifiques Shikishi que Jean-François va vous montrer d'ici quelques secondes. Bravo à vous, 3 gagnants. Vous gagnez les 2 de Tsukasa Kotobuki et Mamoru Yokota.
Voilà, entrez en contact avec les CM là, en MP et donnez votre adresse, on vous envoie ça.
Ultra Collector. Vous avez un très très beau cadeau à la maison à mettre sous cadre. Je vous le recommande vivement.
Et sous la gentillesse des auteurs qui, en partant, ont dit « Allez, on va vous en signer un peu plus. C'est sympa. Merci beaucoup à eux. »
Évidemment, on les remercie. Chaleureusement, bravo, tout Gagnon. Comme on vous remercie, vous.
On ne voudrait pas juste dire un petit truc sur M. Yokota, quand même, puisqu'il a une magnifique exposition.
C'est vrai.
Qui va commencer ou qui a commencé
Qui a commencé.
Ou qui finit? Qui est fini? C'est pas de chance. Parce que donc Monsieur Yokota
en régime,
porte
mais...
un projet sur la région de Fukushima
qui est née suite au tremblement de terre de 2011 et où il fait intervenir de plus en plus d'artistes pour créer des dessins autour de la thématique du samouraï. Ouais. Bien sûr. Voilà. Et c'est à la MCJP, allez voir, ça vaut le coup. Soutenez son action parce que tous les fonds qu'il récolte vont au soutien à Fukushima, où malgré tout aujourd'hui, même si ça va bien mieux, c'est toujours compliqué. Voilà, Mushae à Paris.
Voilà. Elle est toujours en cours, donc n'hésitez pas à y aller.
On m'avait mis le doute, mais c'est pas fini.
Voilà.
Effectivement. On arrive sur la fin de l'émission. On vous rappelle évidemment qu'il faut follow la petite chaîne, activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains lives, notamment la semaine prochaine avec Japan Expo Memories qui fera une rediffusion du coup des shows de Japan Expo Marseille. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la petite chaîne. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines, pour la prochaine émission. Et on rappelle également que cette émission sera disponible en rediffusion sur YouTube, Spotify, Deezer et compagnie. Donc n'hésitez pas à y aller. Oui,
méfie-toi, dans deux semaines, c'est le 1er avril, c'est férié. Donc on a décalé au mardi.
C'est vrai.
Exceptionnellement.
Voilà, très bien.
Il ne faut pas oublier. Bien, donc préparez-vous à avoir un super mardi soir au lieu d'un super lundi soir.
Exactement. Excusez-moi, c'est vrai que c'est férié dans deux semaines, 1er avril. Et on se retrouvera du coup mardi ensemble en route pour Japan Expo. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à très bientôt. Ciao, ciao.
À très bientôt. Au revoir.